Il est possible qu'on ait une grève bientôt à l'Université Laval, une grève étudiante. On a déjà vu ça dans le passé pour les braises et bourses, carrés rouges, différentes causes. Mais là, selon moi, ce serait une première. Alors, les gens de Laval qui m'écoutez, ça se peut que vous tombiez en grève pour l'environnement. C'est un mouvement qui est apparu dans d'autres pays.
En Suède, notamment, dans les pays scandinaves.
Oui. Puis je pense que sur les campus américains également, oui. Ça s'est répandu. Et là, il y a des gens qui militent. On va les rejoindre d'ailleurs. Il y a des jeunes étudiants et étudiantes qui militent ici au Québec pour que les universités tombent en grève pour l'environnement. Ça veut dire, oui, mais comment ça, là? Et là, c'est... Ils attendent quoi? Est-ce que ça va être simplement des journées de mobilisation ou une grève à long terme? Qu'est-ce qu'ils réclament exactement comme changement dans la société? On va aller rejoindre Léa Hilardeau. Elle est cofondatrice du collectif La planète s'invite à l'université. Madame Hilardeau, bon matin.
Bonjour.
D'abord, qu'est-ce qui est... Je l'ai dit un peu, évidemment, que c'est la cause environnementale qui est derrière ça, mais quel a été un peu l'élément déclencheur? Pourquoi vous pensez qu'il y a urgence et qu'on doit même faire des grèves dans les universités?
Ben, en fait, pour moi et mon petit groupe qui avons créé la planète sur l'état de l'université, on a un peu tous des raisons individuelles qui nous ont poussé à nous engager plus, mais c'est vrai que on a tous ressenti un profond besoin d'urgence parce que vous savez, en décembre, il y a eu la COP24 en Pologne et puis les conclusions étaient très décevantes. On entend en octobre 2018, c'était le rapport du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui nous donnait des scénarios vraiment catastrophiques si la température de la planète s'élevait à plus de 1,5 degré. Donc voilà, il y avait vraiment, moi aussi individuellement, c'est vrai que j'ai toujours été engagée au niveau individuel. Je suis dans des associations étudiantes qui essayent de promouvoir l'écologie et puis je voyais que toute seule ça marcherait pas. En fait, au tout départ, je pensais que individuellement, c'était aux citoyens de faire leur part, que ouais. 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fonctionnerait. Et en fait, je me dis qu'on s'épuise et que même si tous on sait que c'est nous qui avons du pouvoir, par exemple, acheter, c'est voter, etc. On nous dit tout le temps des choses comme ça, mais à remettre tout le temps la faute sur nous, les citoyens, on sait très bien qu'aujourd'hui, étant donné l'urgence, des changements radicaux au niveau institutionnel et au niveau des États doivent être entrepris. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'aller encore plus loin, en fait.
Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Parce que évidemment, quand on fait un mouvement, ça peut être large comme revendication, mais surtout dans un domaine comme l'environnement. Mais on est habitué de voir certaines grèves dans les institutions scolaires avec des revendications précises. Là,
oui,
bah, vous avez parlé du contexte un peu, mais précisément, vous réclamez quoi des gouvernements?
Alors en fait, on a trois principales revendications. Donc la première, c'est d'établir, comme on est étudiant, en fait, on sait très bien que l'éducation, elle joue un rôle très important. Et donc notre première revendication, c'est que les gouvernements établissent un programme d'éducation à la crise, enfin en tout cas de sensibilisation à la crise climatique et puis à l'écologie. Nous, ça nous paraît très important que la population soit sensibilisée parce qu'aujourd'hui, quand on entend, enfin voilà, il y a les médias en parlent beaucoup, on essaye un peu de vulgariser tout ce que le GIEC nous dit, mais ça reste des termes très scientifiques et donc ça nous semble très important qu'aujourd'hui, même les plus jeunes, en tout cas, soient informés de tout ça pour qu'aussi nous, on puisse changer individuellement. Ensuite, on demande au gouvernement donc d'établir de voter une loi climatique qui l'oblige en fait à respecter les recommandations du GIEC, c'est-à-dire de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici 2030 et d'arriver à la carboneutralité en 2050. Aujourd'hui, le Québec, en tout cas, avait un plan pour 2020 qui était de réduire ses émissions de 20% depuis 1990. Et aujourd'hui, on est à 9,1%. Donc, en fait, il ne nous reste qu'un an. Et donc, on sait très bien que ça va être manqué. Sauf que comme ce n'est pas dans la loi, c'est juste un plan, il n'y a rien de contraignant, en fait. Et donc, nous, on veut que nos gouvernements s'engagent à aller plus loin. Et enfin, notre dernière revendication, elle s'adresse plutôt à nos institutions d'enseignement et nos universités. On souhaite qu'elles soient plus transparentes et puis que pour celles qui ont beaucoup d'argent à investir, moi je suis étudiante à l'Université de Montréal et on sait, il y a un comité qui existe qui s'appelle UDM sans pétrole et qui milite pour que l'université désinvestisse son argent des énergies fossiles. Et donc, on demande à nos universités de tout simplement désinvestir leur argent des énergies fossiles et aussi d'établir de faire un bilan carbone pour savoir où sont les domaines où chaque année elle émet le plus d'émissions et puis d'essayer de réduire ses émissions.
OK, donc ça c'est grosso modo les revendications. En quoi le fait de ne pas aller à vos cours pendant une journée ou plus va faire en sorte de faire pression sur ces gens-là pour appliquer vos revendications? Parce que vous n'êtes pas des travailleurs à l'école, vous recevez un service. L'université donne un service, vous comme étudiant, vous avez payé pour recevoir un service. Si vous n'allez pas à vos cours, vous vous pénalisez vous-même. J'ai de la misère à comprendre quelle est vraiment l'utilité du moyen de pression. Si vous n'allez pas à vos cours, vous vous pénalisez vous-même?
Mais en fait, déjà, on a déjà vu, alors que le mouvement vient d'être lancé, que il y a un grand nombre de professeurs qui sont derrière nous. Et puis, c'est vrai qu'on parle d'étudiants d'université, mais la plupart des étudiants aujourd'hui travaillent également à côté. Mais en fait, c'est vrai que la grève, surtout que nous, on voit bien là partout dans le monde, il y a des étudiants qui vont chaque semaine dans la rue, etc. Et que nous, c'est pas pour l'instant ce qu'on prévoit de faire. C'est vrai qu'on préfère s'appuyer sur 2 jours de grève qui soient votés en Assemblée générale et par les associations.
Mais ma question, c'est en quoi le fait de vous priver d'enseignement et de cours, de retarder votre formation, de refuser un service pour lequel vous avez payé, en quoi ça va changer quelque chose concernant vos demandes qui sont légitimes sur l'environnement, qu'on soit d'accord ou pas, vous avez le droit de revendiquer ça. Mais je comprends pas la stratégie, le moyen.
Mais en fait, déjà aujourd'hui, on est beaucoup... en tout cas, tous ceux qui se sont engagés à ne plus savoir pourquoi c'est plus pertinent, moi, par exemple, chaque matin, de me lever pour aller étudier alors que je sais très bien. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on doit tous être tournés pour trouver des solutions et pour engager des changements radicaux parce que moi, chaque matin, aller étudier, des fois, je trouve ça plus pertinent alors que je vois que rien n'est fait. Donc, au niveau de nous pénaliser, etc., je pense que l'inaction de nos gouvernements aujourd'hui nous pénalise bien plus, en tout cas nous.
Ouais, mais rajoutez-en pas. En allant à l'école, en allant chercher des informations, vous allez être des citoyens encore plus conscientisés, informés. Continuez d'aller à l'école, refusez pas ça.
Si pendant une journée ou deux, là, on a demandé, ce sont des jours déjà, le 15 mars, c'est un appel mondial à la grève pour étudiantes pour le climat. Et si il y a tous les étudiants. Si on arrive à ramener un nombre significatif d'étudiants dans la rue le 15 mars, que ce soit des étudiants du secondaire ou des universités, c'est seulement par le nombre qu'un rapport de force pourra s'établir, en fait. Et ça, on en est convaincus.
Non, mais vous pénalisez pas le gouvernement, ni les pollueurs, ni etc. Là, je comprends qu'il y a des gens... Vous pénalisez vous-même.
Mais
oui, mais
en même temps, on peut pas, nous, à notre échelle, faire beaucoup plus... On peut pas faire beaucoup plus...
Oui. Vous avez encore le droit de marcher dans la rue.
On a le pouvoir de les alerter et de leur dire non, on n'est pas d'accord et on va pas vous laisser ne rien faire ou en tout cas manquer vos objectifs et vous déresponsabiliser. Donc nous, on a le pouvoir de dire qu'on s'y oppose et c'est comme ça qu'on pense que la grève est pertinente parce que si tous les étudiants... Une grève dérange dans tous les cas. Ça dérange et les institutions d'enseignement, parce qu'aussi, on s'adresse dans nos revendications à nos institutions. Donc, si tous les étudiants disent non, on ne veut plus venir dans notre université...
Ça, vous avez raison, ça dérange, je vous le donne. Ça va déranger l'Université Laval, ça va déranger l'Université de Montréal. Mais quand on regarde la situation de la pollution au Québec, là, pensez-vous que le projet de ciment McInnis, qui est une cimenterie polluante que le gouvernement va installer en Gaspésie, prenons ça comme exemple. Pensez-vous que eux, là, ils vont reculer sur cette cimenterie-là parce que l'Université Laval a des problèmes avec ses cours un peu parce qu'il y a une grève? Je pense pas que vous vous attaquez aux bonnes cibles. Les maisons d'enseignement, bon, évidemment, sont responsables d'une certaine pollution, comme tout le monde, là, mais je pense pas que c'est l'Université Laval ou l'Université de Montréal qui sont responsables de la pollution au Québec. Vous devriez vous en prendre à d'autres cibles, à mon avis. Je trouve que la grève est le mauvais moyen. Allô? Est-ce que Mme Hilardeau est encore là?
Oui, je suis toujours là, oui.
Oui, alors je vous disais, vous n'allez pas pénaliser les bons pollueurs. Je pense pas que l'Université Laval, ici à Québec, fait partie des grands pollueurs.
Il y a Alizée qui est en même temps en ligne. Je sais pas si vous
qui veut nous parler. Bon, on va aller la rejoindre. On a Alizée Girard également, qui est une des porte-parole du mouvement. Je pense qu'elle a entendu la question. Madame Girard, bon matin.
C'est ça. Oui, bon matin.
Bon, alors j'étais en train de demander à votre collègue, pourquoi vous pensez qu'une grève étudiante est un bon moyen? En quoi ça vient punir les pollueurs?
Bon, dans un premier temps, Mme Milardeau en a parlé déjà. Moi, j'aimerais rajouter que on a essayé les pétitions, on a essayé les actions individuelles, tout ça, ça fonctionne pas. Les gouvernements continuent à s'opposer à l'adoption d'un projet de loi qui les contraindrait à respecter leurs cibles, etc. Donc, nous, on essaie un nouveau moyen par la grève et on n'exclut pas non plus de poursuivre, d'aller un peu plus loin là-dedans, d'aller plus loin que deux journées éventuellement, si nos demandes sont pas entendues. Et on va pas nier non plus que les grèves, justement, dérangent et bousculent le système.
Mais ça dérange pas les pollueurs, ça dérange les étudiants, les étudiantes, les professeurs, ça dérange pas les pollueurs.
Les professeurs, ça dérange les institutions, comme on vient de dire, ça dérange le gouvernement également. On n'oubliera pas les grèves de 2012 qui ont bousculé le Québec et qui ont parti un débat de société. Ça, c'est une de nos...
Il y a une différence majeure entre les impacts budgétaires d'une réforme des prêts et bourses et ce que vous demandez au niveau de l'environnement. D'ailleurs, j'aimerais ça vous entendre un peu là-dessus. Je sais que les gouvernements ne veulent pas accepter de mesures de contrainte parce qu'ils disent que ce n'est pas réaliste. Ce que vous demandez, là, concrètement, admettons que le gouvernement vous dit oui, puis passe une loi contraignante, puis adopte ces mesures-là, ça va demander quoi comme effort à la société? Vous êtes-vous déjà interrogé, par exemple, sur le nombre de véhicules qu'il faut enlever, par exemple,
la
route?
Oui. Vous avez parlé de la cimenterie tantôt. Ça, c'est un exemple. C'est un projet qui ne pourrait pas être mis en grange par le gouvernement si la loi est passée. Donc, ça contraindrait le gouvernement à refuser des projets tels que la cimenterie ou à compenser pour ces projets-là. Les projets comme la pétrolière qui essaye de s'implanter en Gaspésie, le projet... Énergie Saguenay, gazoduc, qui essaye de s'implanter. Également, ça, c'est tous des trucs qui
mais vous avez déjà fait le
arriver.
Mais vous avez déjà fait le décompte, là. Mais on n'arrive pas, là. On n'arrive pas aux cibles qui ont été fixées, qui sont, à mon avis,
mais moi, non, exactement, parce qu'il n'y a pas de contrainte. Donc, cette loi-là obligerait le gouvernement. Donc, on demande également à ce que cette loi-là, dans le fond, qui serait adoptée, elle amènerait à investir dans les énergies renouvelables versus tout ce qui est énergie fossile. Ça, c'est un de nos objectifs.
Combien de véhicules il faudrait enlever des routes?
L'économie.
Est-ce que vous avez déjà regardé combien de véhicules il faudrait enlever des routes pour atteindre ces cibles-là qui ont été fixées à l'international? Moi, j'ai déjà vu ça. Mais c'est complètement irréaliste.
Il faudrait être contraint à le faire.
C'est pas réaliste. Vous savez très bien que c'est complètement impossible.
Oui, non. C'est réaliste parce qu'en fait, les technologies existent. Il n'y a juste aucune volonté politique. Nous, on demande la volonté politique pour le faire.
Okay.
Donc, on va contraindre le gouvernement à adopter des lois contraignantes pour que lui, ensuite, soit obligé de faire ces transitions-là. Parce qu'en fait, qu'on ait le choix ou qu'on pense qu'on ait le choix ou pas, l'urgence climatique, elle est là.
Exige ça.
Et nous, on n'a pas l'intention de se laisser faire par rapport à ça.
Juste en terminant, admettons qu'on enlève... Bon, vous dites on va les forcer. Alors, on enlève un char sur deux au Québec. Évidemment, tout est possible sur le papier. Moi, je pense que c'est pas réaliste, mais admettons que votre grève fonctionne, le gouvernement vous donne raison, puis on enlève un char sur deux. Vous êtes au courant que l'économie va s'effondrer complètement. Et moi, je pense que pour réaliser les défis, pour réussir les nombreux défis que les changements climatiques nous amènent, ça va prendre une économie forte, ça va prendre des universités qui sont pas en grève,
oui,
avec des chercheurs financés pour trouver des solutions. Juste finir. Pour trouver des solutions techniques et technologiques. Vous pouvez pas scraper l'économie en un an comme ça. On y arrivera pas. Allô?
Oui, je vais laisser Léa parler.
Oui, vas-y. Vous écoute.
Est-ce que vous m'entendez?
Très bien. Allez-y.
Ah, parfait. Oui, c'est vrai qu'on nous dit toujours, vous rendez compte, l'économie va s'effondrer, mais aujourd'hui, il y a les scientifiques et les économistes qui s'accordent pour dire que le coût de l'inaction est bien plus élevé que le coût de l'action, justement. Donc, aujourd'hui, en fait, même les arguments économistes, ils ne marchent plus parce que on sait très bien que les dégâts qui vont arriver dans 10 ans, ils vont nous coûter bien plus qu'aujourd'hui établir des changements radicaux, c'est-à-dire oui en effet trouver des solutions pour qu'on enlève des voitures du parc automobile ou en tout cas qu'elles arrêtent de rentrer en masse, parce qu'aujourd'hui depuis les années 90 c'est le plus gros pourcentage d'émissions au Québec, dans toutes les émissions du Québec, c'est les voitures, le parc automobile, voire les petites fourgonnettes. Donc on sait très bien qu'il y aura des choses difficiles et enfin qu'on imagine, on a du mal encore à imaginer les changements, mais en même temps on a encore plus de mal à se dire tous les dégâts qu'on va devoir subir plus tard.
Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner. Le débat, évidemment, est vaste. On va voir un peu qu'est-ce qui va se passer dans les universités. Merci beaucoup à vous deux pour le débat, de nous avoir parlé. Merci. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée.
Léa Éliardeau et Alizée Girard veulent sont cofondatrices du collectif La Planète s'invite à l'université. Ça va se faire ici, en passant, ça va arriver. Là, ouais. Il y aura des grèves dans les universités, j'en suis convaincu, parce que le mouvement est mondial, puis ça va embarquer. Alors, qu'on soit d'accord ou pas, préparez-vous à Laval, vous serez en grève bientôt. L'Université de Montréal, l'UQAM, devra aussi embarquer. Il y a des réunions d'associations étudiantes un peu partout. Je suis pas devin, là. Peut-être qu'il y en a qui vont refuser, en disant un peu comme moi, ben c'est pas le bon moyen. Mais ça a l'air d'être parti très, très fort, selon ce que je vois. Sur le fond, on peut continuer le débat. Sur la forme, je suis vraiment, vraiment pas d'accord. Eux pensent qu'on est rendu là. Je vois pas en quoi le fait de ne pas aller suivre ses cours va améliorer la cause de l'environnement, faire pression sur le gouvernement. Vous allez pénaliser des maisons d'enseignement dont on a grandement besoin pour relever les défis climatiques. On a besoin des chercheurs de Laval, de l'UDM. On n'a pas à mettre ces institutions-là en grève. On en a besoin pour ça, pour l'environnement et plein d'autres choses. Mais bon, je pense que surtout au Québec, avec ce qui s'est passé avec les carrés rouges, parce qu'ils ont gagné. Ils ont gagné, là, les carrés rouges, qu'ils se disent, ben voilà, c'est ça qu'il faut faire pour arriver au but.
Faut que le mouvement soit, tu sais, pour que ce soit de la même ampleur que les carrés rouges, il reste encore
bonne
des
chance.
Croûtes à manger. Oui,
c'est pas bonne chance. Mais quand des travailleurs font la grève, c'est pour pénaliser l'employeur qui se voit privé de son moyen de production. Quand un élève va pas à ses cours, il se pénalise lui-même.
Parce qu'il paye pour ça, pareil. Là. L'université ne te remboursera pas parce que tu fais la grève pendant 2 semaines. Là. Tu payes tes cours quand même.
Ceci étant dit, par rapport, mettons, à 2015, le fameux mouvement qu'on ne savait pas trop c'était contre quoi, je suis quand même relativement un peu plus sympathique à cette cause-là parce que ça me semble plus altruiste. On est d'accord sur le moyen, je pense pas que ça donne grand-chose.
Non, ça donne rien.
Mais ça semble pas être égoïste comme motivation. Il y a quand même des bonnes intentions derrière de ça. Alors, je suis moins hostile à ce type de grève.
Ouais, mais écoute, ben, admettons que j'achète de quoi chez Walmart, puis je suis fâché, puis je ne vais pas le chercher. Tu sais, je l'ai acheté, je l'ai payé, mais je dis, je m'en sers pas.
C'est ça, c'est qui?
Ça va pénaliser Walmart. J'ai acheté de quoi chez eux. Il est chez nous, il est rendu, il est payé. J'annonce publiquement que je me servirai pas de ce que j'ai acheté chez Walmart.
Ben, Walmart,
non. Pas moi, Walmart, bon Dieu, regarde.
Parce qu'ils s'en foutent pas mal.
Ouais.
Mais tu l'as payé, c'est ça qui nous intéresse.
T'as payé pour tes cours à Laval.
Oui, c'est ça.
Même si on dit l'éducation est gratuite, c'est pas tout à fait vrai.
Non,
elle
non,
est, c'est la moins chère en Amérique du Nord, mais il y a un paiement, là. Tu payes tes livres. Tu payes
Tu payes tes sessions aussi. C'est pas gratuit, l'université.
Il y a un coût. Si tu y vas pas, c'est pas le bon moyen de pression.
En fait, ça met pas de pression sur personne.
Non.
Ça va peut-être faire parler de la cause, mais ça met pas de pression sur personne.
Il y a plusieurs réactions, 25-226. Il y a surtout beaucoup d'insultes. Là. Je pense que vous pouvez faire passer votre message sans traiter les filles de ci pis de ça. Là. Mais je te dirais que c'est pas mal 100% unanime. Là. Les gens sont pas du tout d'accord avec eux autres.
Avec le moyen de pression.
Avec le moyen de pression. Quelqu'un nous dit, de toute façon, ça sert à rien de faire ces moyens-là ici tant que la Chine réduit pas son empreinte environnementale. C'est sûr qu'ils ont un impact assez gros sur l'empreinte globale, là, disons.
Ça, c'est intéressant dans le débat. Je vais répondre tout de suite. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on me dit que la cible pour le Québec, faudrait que tu enlèves la moitié? C'est ça que j'ai demandé. Non. Je veux savoir pour atteindre la cible qu'eux, ils veulent. Là. Combien de chars faudrait enlever de la route? C'est ça que je veux savoir. C'est combien? Moi, je pense que c'est irréaliste. C'est pourquoi les gouvernements refusent d'adopter des lois contraignantes. Tu peux pas scraper l'économie. On a besoin des maisons d'enseignement. On a besoin d'une économie forte pour relever les défis que pose l'environnement. Demain matin, tu enlèves un char sur deux au Québec d'ici un an. C'est complètement irréaliste. Je vous dis pas que c'est ça, là. Je donne ça en exemple. D'ailleurs, je me demande si en enlevant un char sur deux, on y arrive. Je suis même pas sûr qu'on y arrive. Faut qu'on enlève 2,2 millions de chars.
Sur combien?
Sur 4,5.
Ben, c'est pas mal la moitié. Ouais.
Le débat est terminé. Je m'excuse, c'est irréaliste. Mais bon, ils sont jeunes, ils rêvent. Non. Eux, ils vont dire, oh, oui, ça prend ça, faut que ça fasse mal, parce que sinon, ça va être trop tard, la planète. Je comprends, mais écoutez, j'ai plus confiance que vous. Je pense que la science, Je pense que les maisons d'enseignement, les chercheurs, la technologie vont nous arriver avec de quoi pour répondre à ces défis-là. Ils sont là. Moi, je les nie pas, les défis. Mais je suis un optimiste. Si demain matin, t'enlèves 2,2 sur 4,5, j'étais pas loin. C'est quasiment un char sur deux. Imagine-toi en région, là. Pensez un peu aux gens des régions, là. Pensez pas juste à Montréal où il y a le métro, là. T'annonces à tout le monde, là. Il faut qu'il y ait un char sur deux, d'ici un an ou deux, qui disparaissent de la circulation. C'est impossible.
Ou qui changent de voiture à essence à voiture électrique. Mais il n'y a personne, il n'y a pas un Québécois sur deux qui est capable de se payer une voiture électrique au moment où on se parle.
Je vois pas en quoi l'environnement en sera amélioré. Ça va être pire parce que l'économie va s'effondrer à court terme.
Caroline nous écrit au studio commercial fm93.com. À mes yeux, cette grève des étudiants ne fait que nuire à leur crédibilité. En tant que futurs travailleurs, quels employeurs vont vouloir embaucher des personnes qui n'ont qu'un seul but, ce qui est de
c'est
faire
pas le bon
la
moyen.
Grève?
Là? Moi, je pense que le moyen est pas beau. La cause, on peut en discuter, ils ont leurs opinions, c'est tel que tel, je respecte leur point de vue, mais le moyen est pas bon.
Ensuite, quelqu'un nous dit, pourquoi enlever des autos quand c'est l'économie principale? C'est sûr qu'idéalement, c'est qu'il y en aille, que ça aille pas en augmentant, disons, le nombre de voitures, là. Sauf que c'est vrai que pour l'instant, c'est une grosse partie de l'économie. Ensuite, quelqu'un nous dit 100% d'accord avec leur moyen de pression. Il n'y a pas plus de commentaires que ça. Fait que bon, ça serait intéressant.
D'accord,
de...
mais dites-moi, non, en quoi, ça, en quoi, dites-moi juste en quoi ça va. L'argument, c'est moi, je dis que ça ne donnera rien de se pénaliser d'aller à ses cours. Alors, si vous pensez oui.
Ensuite, quelqu'un nous dit ce serait intéressant de savoir si ces deux jeunes filles ont des voitures elles-mêmes. On ne le sait pas. On aurait pu leur demander, mais non. C'est vrai,
j'imagine
on
que non. J'imagine que non.
Ben, Catherine Dorion en avait un finalement. Elle
j'ai pas
un,
osé, mais j'imagine que non. J'aurais peut-être dû.
Ensuite, Pierre nous dit les profs universitaires sont avec ce groupe, elles l'ont dit. C'est assez capoté. C'est probablement pas tous les profs universitaires, là, même s'il y en a qui appuient. C'est ça, ça reste à voir. Ensuite, il y a plusieurs personnes qui soulignent le fait que les professeurs, effectivement, sont derrière eux. Là, ça a cru, on dirait que ça a titillé beaucoup de personnes. Ensuite, quelqu'un nous dit, quand l'économie va s'effondrer, vont-ils accepter leur augmentation du coût des sessions? Alors, c'est sûr que si l'économie va mal, il y a beaucoup de choses qui vont augmenter dans le prix. Des...
Non, eh bien, c'est un bon point. Si l'économie s'effondre, on n'a plus les moyens de financer les universités, on n'a plus les moyens de financer les programmes de recherche, on n'a plus moyen. Ben non, c'est pas la solution. Il faut que ça soit réaliste. Oui, il faut faire des changements, mais réaliste. Hey, mais par contre, je vais aller contre un des arguments, là. Ça, je l'entends régulièrement. On n'a rien à faire au Québec, c'est à Chine. Anyway, quand même qu'on fait de quoi, le Québec, ça représente rien sur la pollution, c'est à Chine. Mais non, passez-y, là. Je comprends l'argument, on l'entend, c'est à Québec en masse. Pas d'affaire à rien changer. Québec, c'est une miette, c'est rien. Mais non, c'est une question de morale. Voyons, les amis, oui, vous avez raison, la Chine doit changer. L'Inde aussi, ce sont les deux pays les plus polluants. L'Afrique doit changer. Mais si on leur demande de changer... puis on fait rien.
Non, c'est ça, là.
Comment voulez-vous moralement vous donner une position morale d'autorité de dire à la Chine sois plus verte alors que nous autres on s'en sacre parce que le Québec est petit? Mais oui, il faut que ça commence chez vous. Tant qu'à ça, prenons les déchets. Je pense que les déchets c'est unanime qu'il y a personne qui veut produire trop de déchets. Mais non. Ça c'est pas de la droite, de la gauche, là. C'est du gros bon sens. Ouais. Ça coûte une fortune aux villes ramasser des déchets. Vous êtes d'accord? Mm-hmm. Moins il y en a, tout le monde est gagnant. Ben moi je représente quoi par rapport à toutes les entreprises. Pourquoi je recycle? Je suis juste pas recyclé. C'est quoi Sylvain Bouchard sur les millions de Québécois? Je m'en sac, je recycle pas. Je cave, hein? Vous me traitez toutes de cave.
C'est
hein?
Un argument.
Ben, c'est l'argument qu'on entend que le Québec a pas à prendre de mesures environnementales parce que la Chine est plus polluante.
Mais non.
Ben oui, il faut commencer.
À quoi ça sert les droits humains? Il y a plein de pays qui bafouent les droits humains.
Tant qu'à ça, on pourrait dire, moralement, lâchez-moi avec la... Vous avez raison. La Chine, ça doit être, je sais pas combien de fois, plus polluant que le Québec, là. Mais il faut commencer. Comme le recyclage, moi, j'en fais chez nous. Mais je suis conscient que l'usine à côté de moi, et effectivement, si elle recycle pas, ou l'autre qui fait... Ouais, mais... Justement, si je veux les critiquer, faut que je sois logique et cohérent. Donc oui, le Québec a sa part. Faut pas non plus se prendre pour meilleur que d'autres, puis en faire plus qu'ailleurs, puis scraper l'économie. Mais oui, le Québec doit faire sa part contre la pollution.
Mais faire le minimum, c'est du gros bon sens. C'est pas de la politique, ça, là. Fait que y a un parti qui ou un groupe qui essaye de s'approprier du gros bon sens pour en faire de la politique.
Non, mais il y a des extrémistes encore des deux bords. Il y a ceux qui veulent rien savoir. On a rien à foutre au Québec de ça parce que c'est la Chine. Puis de l'autre côté, il y a ceux qui voudraient enlever un char sur deux de la route, là. Moi, je pense qu'entre les deux, c'est plein de citoyens gros bon sens qui recyclent, qui font attention, qui essayent de faire moins de déchets, qui sont presque à ce qu'il y ait un Québec plus vert, mais qui veulent conserver l'économie.
Ensuite, quelqu'un
avec
nous
un
écrit.
Peu de confiance.
Quelqu'un nous écrit, voilà, c'est pas cohérent. Il y a plus d'étudiants en auto qu'il y en avait avant. Mais il faut pas oublier que ces filles-là parlent pas au nom de tous les étudiants du Québec. Je suis certaine qu'il y en a des étudiants qui écoutent ce matin qui disent, non, moi, ça me représente pas du tout ça. Fait que oui, il y a plus d'étudiants en auto qu'avant, mais il y en a plein qui adhèrent pas à leur groupe non plus.
Mais si un étudiant qui fait du covoiturage, si un étudiant qui a un véhicule électrique, si un étudiant qui a pas le choix d'avoir un char parce qu'il reste loin, il faut pas commencer à diaboliser puis à pénaliser, là. Ça prend des solutions. Il faut travailler, mais il faut se donner du temps un peu. Moi, je suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est trop tard.
Ben, c'est ça. Ben, quelqu'un va dans ce sens-là, justement, mais tu viens d'y répondre. Il dit, quelle perte de temps, ces discussions. On représente 1% du monde pollueur. On va se faire suer collectivement, alors que 99% du monde va continuer à polluer. Mais c'est pas une raison pour pas en faire zéro.
Alors que les Chinois fassent des sacrifices, mais nous autres, vu qu'on est juste 1%, on s'en sac, puis on fera rien. Comment vous allez réussir à faire ça? Comment vous allez négocier? Comment n'importe quel pays occidentaux pourrait rencontrer la Chine puis demander des sacrifices alors qu'il fait rien dans sa cour? Ça circule, c'est parce que ça sert un peu à déculpabiliser des gens. Puis de garde, on n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre, puis c'est pas grave. Fait que si le voisin, dans le fond, pollue, mettons que vous avez un voisin qui recycle pas, puis il produit plus de déchets que vous, ben ça vous donne le droit de pas recycler.
Voilà.
Moralement, ça, mec, ça marche.
Mon voisin, il a 4 chiens, il fait caca à terre, il ramasse pas. Moi, j'ai juste un chien, donc je fais moins de caca qui traîne à terre, donc j'ai ramassé.
Je suis pas obligé de ramasser.
Et on va pousser votre raisonnement plus loin, là. Ça veut dire que tous les pays du monde, à part la Chine, devraient rien faire.
Absolument. Voilà.
On est une belle planète, hein? Mm-hmm. Bon, vu que, mais nous autres aussi, la Chine est plus polluante, on fait rien. Il y a une logique là-dedans. Honnêtement, c'est imparable.